Au fond des filets, le podcast.
Grand plaisir d'être rejoint au Biodôme par Samuel Piette. On est à quelques jours, on sait toujours pas quand cette émission-là va être publiée, ouais. Mais on est à quelques jours du coup d'envoi. Mm-hmm. Je te pose la même question que j'ai posée à David Sauvry. Es-tu fébrile parce que le premier match s'en vient ou solidement écœuré du camp d'entraînement?
Je suis pas écœuré du camp d'entraînement. Honnêtement, ça l'a passé ultra vite.
Ah oui?
Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a eu du plaisir? Est-ce que c'est parce qu'on a eu plein d'activités à gauche et à droite? J'ai aussi, moi, ma famille qui est ici. Mm-hmm. J'ai mes parents aussi qui sont venus. Le bon temps, tu sais, ça fait quelques jours que tu es ici. Le setup est quand même assez extraordinaire. On a les terrains.
On a pris deux ans pour pogner un coup de soleil.
C'est pas long. Fait que tu as les terrains là, tu as deux, trois piscines ici. Terrain de golf où je suis allé jouer l'autre jour avec Seb Reza et Brendan Craig. T'sais. Fait que tu as vraiment plusieurs opportunités de changer les idées. Puis on prend du plaisir aux entraînements, on travaille bien, les performances aussi, ont été positives dans les matchs amicaux, dans les matchs de préparation. Donc, je suis pas écœuré, mais dans un sens, j'ai évidemment très, très hâte de commencer la compétition. Tu sais, c'est bien de s'entraîner, c'est bien de jouer des matchs préparatoires, mais t'as pas de récompense, mm-hmm. T'as pas le sentiment, oui, t'es plus stressé quand tu joues des vrais matchs qui comptent. Mais quand tu gagnes, ça vaut de l'or. Puis quand tu perds, ben ça te fait vraiment chier. Donc, d'avoir ces émotions-là, autant des highs et des lows, j'ai quand même hâte de retrouver ça. Là.
C'est ton 8e camp d'entraînement. As-tu changé ta préparation? Y a-tu des affaires que tu fais maintenant que tu ne faisais pas avant ou l'inverse?
Le plus gros changement, je dirais que c'est plus avant le camp ou durant l'entre-saison.
La dinde à Noël.
La dinde à Noël, on y en donne quand même, mais c'est justement le lendemain, je veux aller m'entraîner pour, de un, perdre ce que j'ai pris la veille, puis surtout, ben ouais, de garder mon corps actif, tandis que, tu sais, si tu m'avais posé cette question-là après mon premier off-season, moi, je suis arrivé en 2017, puis tout de suite, on me dit, hey, t'as 3 mois de congé. Et moi, normalement, avant ça, en Europe, c'était, si t'avais 5 semaines, t'étais chanceux. Ouais. Là, 3 mois, comment tu gages ça? Tu fais-tu 1 mois et demi, rien du tout? Puis après ça, tu y vas à fond? Est-ce que... Donc là, aujourd'hui, je sais un peu plus comment bien calculer ça, comment splitter mon off-season de 1 pour quand c'est le temps de recommencer, que j'ai pas de pépin physique, que mon corps est pas en souffrance. Puis de 2, ben aussi que je me suis pas écœuré juste à m'entraîner pour avoir juste en tête de me dire il faut que je m'entraîne, là, j'ai la préparation qui s'en vient, puis tu sais, je suis capable de profiter. Donc, c'est vraiment de balancer le tout que je pense j'ai trouvé la bonne recette pour finalement de recommencer, puis de ne pas être écœuré, mais d'être quand même en bonne forme physique pour suivre le groupe puis suivre le rythme.
Parlant de recette, t'aimes la bouffe, t'aimes les restos. Ouais. Je pense que t'as un billet de saison au pied de cochon, si je me trompe pas. Cuisines-tu un peu aussi?
Un peu, mais je laisse ça à ma conjointe. Elle cuisine tellement bien, honnêtement, que ce serait un crime pour moi de prendre la place puis de scraper un repas. Je suis très, très bon dans la vaisselle. Mais ouais, je sais que c'est quelque chose qu'elle aimerait que je prenne un peu plus le lead.
Ouais.
Je suis bon pour suivre les recettes, mais je suis pas créatif, tandis qu'elle va suivre une recette, elle va ajouter de la crème, des épices. Finalement, ça va être un truc incroyable. Donc, je laisse ça plus à elle, puis je m'occupe de cleaner après.
Bien, t'as 30 ans, j'en ai 41. Ça fait juste 1 an et demi que je cuisine, semi comme du monde. T'as le temps.
Il me reste encore un bon 10 ans.
J'allais donner du trouble tantôt parce qu'on s'était donné 1 heure, puis t'es arrivé plus tard. Puis après, je me suis fait dire que t'es allé porter un café à ta blonde, qui est pas loin.
Petit café glacé.
Je vais ravaler mes paroles. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ta famille ici? Est-ce que tu parlais de l'entre-saison où ça te permet de presque de vider la mémoire cache et te concentrer sur ton sport juste quand tu vas être là-dedans?
Ouais.
C'est la même chose pendant le camp?
Oui et non. Oui, parce que quand l'entraînement finit, là, tu vas manger en équipe. T'sais, toutes les activités qu'on a avec l'équipe, évidemment, je suis là. Je demande pas de passe-droit à l'équipe de dire j'ai ma famille qui est là. Est-ce que, évidemment, aussi en tant que capitaine, je pense que tu as un certain rôle à jouer puis de montrer l'exemple. Mais oui, quand, par exemple, quand on va terminer cet entretien-là, je vais aller rejoindre ma famille, que ce soit sur le bord de la piscine ou on va retourner à la maison qu'on a louée ici. Puis, tu sais, je vais passer l'après-midi sûrement à aller jouer au soccer avec mon gars au parc ou faire des Legos, faire des casse-têtes, etc. Donc, tu penses pas nécessairement à « Ah, j'ai manqué tel truc à l'entraînement » ou « Ah, j'ai mal réagi sur cette action-là » ou « J'aurais dû faire ça », etc. Mais tu y penses quand même parce que, tu sais, je suis ici dans le mode « C'est ma job ». Tu sais, juste avant de venir, je dis à ma conjointe, à Chloé, je dis « Tu sais, j'ai un entretien à faire avec Oli. Je reviens dans 30 minutes, mais ça peut être dans 55 minutes aussi, tu sais. » Puis, tu veux dire, « It's part of the job », puis c'est bien correct. Puis, elle comprend aussi, là. Donc, puis mon gars, justement, me demandait, il dit ah, « Pourquoi? » Moi, j'ai dit, en fait, « Ah, je retourne travailler. » Ah, « Pourquoi encore travailler? Travaille toujours. » Ben, c'est là que ma conjointe, elle a dit, « Ben, nous, on est ici en vacances pour venir voir papa, mais papa n'est pas en vacances, tu sais. » Puis eux le comprennent parfaitement. Mon gars, un peu moins, évidemment, avec son âge. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de décrocher. Tu sais, évidemment, de quand tu es loin du match, de prendre un verre de vin puis discuter un peu de nos projets avec ma conjointe qu'on a à Montréal, de la vie familiale. Mon gars rentre à l'école, de parler un peu de cette situation-là et tout ça, et non juste de soccer puis de « Ah ouais, là, je pense qu'on aurait dû faire un 3-5-2 ou un, tu sais, attaquer plus sur les côtés. » Donc, ça fait du bien.
J'ai vu des images passer sur les médias sociaux. Ton expérience avec Mickey Mouse, ça s'est passé comment?
Ouf! Bonne question.
Parce que c'est polarisant, Disney. Hein?
Tu veux-tu la vraie réponse que je pense? Ben ou oui. Ouais, moi, c'est pas ma tasse de thé, honnêtement.
T'aimes pas ça faire la file?
J'aime pas ça faire la file. J'ai été là, on était là, puis tu sais, mon garçon était content, évidemment. Mais tu dépenses presque, on était trois, moi, ma conjointe, mon garçon, tu dépenses presque 1 000 $ pour une journée. On a fait 4 manèges. Pour un total d'environ quoi, 15 à 20 minutes de manège. T'attends en ligne. Et en plus, on est à Orlando, il fait chaud. Tu sues, ton gars des fois perd patience. Là, des fois, c'est toi. Fait que là, t'as soif, prendre de l'eau, les bouteilles d'eau à 9$. C'est pas mon truc, mais au final, passer une journée avec la famille, chose que j'avais pas fait depuis le début du camp. Donc, de vraiment décrocher puis pas penser au foot, justement. Ça l'a fait du bien, puis après ça, on est revenu à la maison, on s'est fait un bon souper, puis...
Mais on a oublié ça.
Une fois, c'est assez, puis si la famille revient l'an prochain, je pense pas qu'il va y avoir de team park comme ça, là.
À quel moment dans la journée vous vous êtes dit, toi et ta blonde, « Hey, c'est pas loin d'un voyage dans le sud?
» Ouais, ben, on se l'est dit.
À la troisième bouteille d'eau, mettons?
À la troisième bouteille d'eau, ou même juste quand on a acheté les billets la veille, on s'est dit, hey, ça n'a pas de bon sens. On n'a même pas mis le pied, puis on est déjà à 700$. C'est. Ben, regarde, c'est fait. Une belle journée, somme toute, mais c'est pas mon truc.
Change complètement de registre. Tu as parlé de ton devoir de capitaine tout à l'heure. Vous êtes quelques cadres dans l'équipe. Ouais. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Je pense que c'est presque unanime que c'est un bon leadership de nouveaux vétérans qui viennent rentrer. De ce que je comprends, vous avez fait des ajustements. Je parlais avec des gens du staff qui parlaient d'une rencontre que vous avez eue pour établir des règles de vie. Le faisiez-vous dans le passé?
On a toujours eu des règles de vie de vestiaire. Donc, tu sais, des fines, qu'on appelle un fine system, où si tu arrives en retard pour le report time au centre d'entraînement, tu sais, nous, c'est 9h. Si tu arrives à 9h01, ben tu as une amende à payer. Des trucs du genre, c'est sûr que tu en as qui sont minimes. C'est juste pour dire, hey, soit à l'heure, soit à ton affaire. Puis tu en as des plus grosses que, comme si tu manques un entraînement, ben ça, tu sais, pay up. Mais maintenant, on a instauré avec le club, avec le président, des sanctions qui viennent, que moi j'appelle, qui viennent de l'institution, qui viennent du club. Donc, si jamais des trucs plus graves, évidemment, tu sais, parce que le club est quand même strict sur certaines choses. Ouais. Que ce soit justement, tu manques un entraînement, t'as une dispo média, puis tu dis que tu vas être là, puis finalement, derrière une minute, t'envoies un message, ah, je peux pas la faire. Non, ça marche pas comme ça. Un truc communautaire, promotionnel. De mettre ça en place pour que ça soit noir sur blanc, comme ça, on sait ce qu'on peut pas faire, puis comment que c'est puni. Donc, est-ce que tu veux te rendre là de dire, hey, je rate une entrevue, puis j'avise personne? Ah, ben ça, finalement, ça fait en sorte que peut-être le prochain match, je joue pas. Tu vas y penser deux fois. Là, donc.
Puis tu me disais l'an dernier que toi, tu n'as pas de problème à renforcer les règles qui sont établies. En même temps, tu ne veux pas passer ta vie à faire la police.
Non.
C'est un peu dans cette foulée-là.
Exact. C'est ça. D'un peu nous enlever cette responsabilité-là, puis de dire, regarde, ça vient pas de moi. C'est pas moi là, qui veux te punir, puis avoir ton cash. Parce qu'au final, l'argent va pas à moi. Oui, elle reste dans mon compte chèque un certain temps, puis après ça, on le redistribue au support staff, puis l'équipe derrière l'équipe. Donc, au final, c'est pour une... pas une bonne cause, mais c'est pour un bon truc, pour remercier les gens qui nous ont aidés et qui ont été là pour nous durant toute l'année. Mais c'est ça, c'est d'enlever un peu de responsabilité, de dire, ben si tu rates un entraînement, tu sais, oui, moi, ça m'affecte parce qu'on est un de moins à l'entraînement, tu manques de la tactique et tout ça, mais au final, c'est l'équipe que tu pénalises aussi. Ouais. Ben on veut-tu se rendre là puis dire, ah, ben t'as manqué un entraînement qui est peut-être la veille de match où on est allé à travers cette tactique-là, puis toi, t'assais pas, puis le lendemain, tu joues. C'est pas de même que ça marche, je pense. Puis au final, tu sais, on est dans le monde professionnel, on est des sportifs professionnels. La discipline, pour moi, c'est la moindre des choses. Donc, tu sais, je vois pas comment on peut se rendre là. Mais malheureusement, ça arrive encore certains cas comme ça, là.
Pendant que l'argent fait un petit transit dans ton compte chèque, t'es-tu tenté une fois de temps en temps d'acheter du Bitcoin juste pour voir si t'es capable de faire une petite pièce?
Non, 0, 0, 0. Moi, là, tout ce qui est crypto, je touche pas à ça. Moi, tu le connais un peu, dans l'immobilier, les fonds, les stocks, puis tout ça. Puis c'est pas moi qui gère ça. Mais crypto, moi, je me tiens loin de ça.
Je vais te parler de Nathan Saliba. Les échos que j'ai de lui cette année, c'est intéressant parce qu'au-delà de sa progression sur le terrain, il est encore jeune.
Ouais.
On commence à me parler de son leadership.
Ouais.
C'est quel genre de leader, Nathan Saliba? Parce que c'est pas celui qui jappe sur le terrain.
Non.
C'est un gars qui parle, mais c'est pas...
Un peu plus qu'avant.
Ouais.
Prend un peu plus de place au niveau vocal sur le terrain. Que ça soit dans les exercices, les petits matchs qu'on fait comme tu as vu aujourd'hui, si ça va pas de son côté ou si quelque chose cloche dans son équipe, il va pas se gêner de dire ce que lui pense. C'est quelqu'un, honnêtement, qui lead by example. Oh. On parle de discipline, lui, pas vraiment de problème avec ça. Toujours à l'heure. Je pense que le fait qu'il vienne de l'académie, que pour l'académie, c'est tellement...
Ils ont été formatés.
Exactement. Ben, pour lui, c'est juste naturel, comme ce l'est pour moi, mais pour d'autres, ce l'est peut-être pas. Puis aussi, ben, c'est un leader, je pense, par sa qualité, par ses actions sur le terrain. C'est un joueur important pour le club, niveau communauté et tout ça, mais c'est un joueur important pour notre équipe. On a joué beaucoup l'an dernier ensemble, en double pivot surtout. Nathan, c'est pas un 6 pur, c'est pas un 10 pur non plus. Moi, je trouve que c'est un joueur très hybride qui peut évoluer un peu plus haut sur le terrain, mais si tu le mets en 6, peut faire le boulot. Pendant certains matchs, je parle seul, mais c'est quelqu'un qui aime se projeter vers l'avant. Il est très, très mature dans son jeu, avec ses qualités aussi techniques. C'est un milieu de terrain, mais une très bonne qualité de dribble, à briser des lignes, très, très, très sharp sur les premiers pas. Puis c'est ça, c'est un profil un peu différent qu'on a au milieu de terrain qui nous fait beaucoup de bien. Donc, les gens s'appuient beaucoup sur lui. Puis c'est quelqu'un qui est quand même assez constant dans ses performances, puis t'en as besoin de ça. Donc les gens le voient, un joueur discipliné, qui a son affaire, qui a une bonne attitude, t'as un bon jack, puis il est bon sur le terrain. On n'a pas de raison de ne pas le suivre, ce gars-là.
Ça vaut une coupe de millions, ça.
On
va voir ce qui s'en vient avec ça par la suite. On parle de leadership. En 2020, on est plusieurs à être presque tombés en bas de notre chaise quand Jukka Raitala a été nommé capitaine. À ce moment-là, il y avait un genre de message qui t'était envoyé, je ne sais pas si c'était de Thierry Henry, de la direction du club, que tu avais encore du galon à prendre dans ton leadership. Puis je me souviens, je pense que c'est au bilan de fin de saison de cette même année-là où tu as dit avoir compris certaines choses, que tu devais te présenter différemment ou peut-être plus intervenir. Enfin, qu'est-ce qui a le plus évolué dans ton leadership à toi?
Je pense que le fait d'être, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'être plus méchant, entre guillemets. Moi, je déteste la confrontation. Je déteste les conflits. Je me tiens loin de ça. J'aime pas avoir du bad blood avec quelqu'un d'autre. Donc, peut-être qu'en tant que leader, avant, j'étais toujours dans le trop positif, dans « c'est pas grave, tandis que là, je suis capable de dire « call bullshit when it's time to call bullshit ». Je suis capable de faire ça aujourd'hui. J'ai encore ce côté-là plus positif que négatif. Mais ouais, d'être ferme sur certains trucs, justement, la discipline, d'être sur le dos des gars quand... Pas que ça fait pas mon affaire, mais ça fait pas l'affaire du groupe. Que quand tu fais mal au groupe, tu fais mal à l'équipe, tu fais mal au club, de pointer du doigt. Puis avec le temps, j'ai appris qu'en faisant ça, bien, les gens te respectent pas plus. Moins. Au contraire, ouais. C'est ça, ils te respectent plus. Puis c'est peut-être quelque chose que de un, je savais pas avant, puis que je pensais pas que ça marchait comme ça, tu sais. Donc aujourd'hui, ben je pense que je suis capable, c'est ça, d'avoir un peu les deux, de gagner du respect avec mes actions, avec mon côté positif, mais aussi le côté un peu plus méchant quand c'est le temps de l'être.
C'est intéressant parce que c'est presque une situation où les fois où tu es plus tranchant, ça donne encore plus de valeur aux exact. Fois où tu es gentil parce qu'on exact. Se rend compte que c'est pas juste comme un tapis, tapis ouais. d'entrée ou juste un gars qui veut pas mettre ses culottes, si on veut.
J'ai appris beaucoup de ça sans avoir des discussions nécessairement, mais tout simplement de le regarder, de Kwame Mpadou, ah ouais? qui était avec nous, avec Thierry, justement, puis avec Wilfried après, où lui avait le rôle d'assistant, puis c'était un gars avec qui tu pouvais parler de tout et de rien, niaiser, dire les pires conneries au monde.
Mais il pouvait mettre son poing sur la table aussi.
Mais hein. Donc, c'est là un peu que j'ai vu que, OK, dans les entraînements, il est vraiment sérieux. Ou même en dehors, quand c'est le temps d'être sérieux, il est sérieux. Mais en même temps, il est capable d'avoir du fun puis dire un peu n'importe quoi. Puis ben, j'ai le même respect pour ce gars-là. Mmh. Sur le terrain, quand il est pas content, quand il est fâché, que quand il dit n'importe quoi. Donc, finalement, les deux mondes peuvent s'assembler puis tu es capable de jouer avec ça. Donc, j'ai appris beaucoup de ça.
Le maillot est sorti la semaine dernière. Oui. Évidemment, ça fait beaucoup de bruit sur les médias sociaux. Les fans sont toujours heureux de voir des maillots.
Oui.
Est-ce que les joueurs en parlent un peu? Est-ce que ça... Ça change rien sur une performance d'une saison, ouais. là, mais l'année où vous jouez en gris parce qu'il n'y a pas de maillot versus ouais. ce maillot-là qui est presque, il semble faire l'unanimité,
ouais.
Ça amène ça un peu d'enthousiasme chez les joueurs? Est-ce que les joueurs aiment ça?
Oui, ben on aime surtout ça dans les premiers jours parce que c'est là que, ben, même avant le dévoilement, évidemment, parce que les photos, avez, les ouais. vidéos sont ont déjà été faites. Mais tu sais, suivant ce car wash-là qu'on appelle, les gens ont hâte que les photos sortent, ben, que le maillot soit dévoilé pour que nous, après, on puisse poster ces photos-là, les vidéos, voir vraiment le résultat sur nous-mêmes. Mais on a surtout hâte de le porter en match. Mm-hmm. On le voit comme ça ou sur des photos, c'est bien, mais de le voir en action, de le voir dans les shorts aussi, ça, j'ai bien hâte de voir ça. mais ouais, c'est quelque chose qu'on parle, puis on les compare un peu aussi. Ah ouais, cette année-là est un peu moins bien. Ah, celle-là, il est vraiment cool, mais j'aimais mieux ça de l'an dernier. Même les shorts, ça, c'est bien, ou la texture, etc. Donc ouais, on en parle entre nous. Évidemment, on en parle peut-être un peu moins aujourd'hui ouais. quand ça fait déjà 2 semaines qu'on l'a vu. Ouais. Mais quand c'est nouveau, ouais, c'est un sujet d'actualité sur lequel on discute, puis on échange nos opinions, là.
On s'en va de l'autre bord du lac un peu. T'es allé faire un tour. Pour ceux qui ne le savent pas, t'es pas juste pris au coéquipier en équipe nationale avec Alistair Johnston.
Ouais.
C'est un de tes très bons chums.
Oui, oui, oui.
T'es allé faire un tour pour le voir pendant quelques jours.
Ouais.
Ça donnait à être une finale de Coupe de la Ligue écossaise. Celtic Rangers, ouais. en plus. Parle-moi de cette expérience-là.
Ah, c'était complètement fou. On a été là-bas, moi, ses deux frères, son beau-frère, puis un autre de ses chums que je connaissais pas, puis Jack Meyer de Nashville. Qui est un de ses très, très bons amis. On est allé le visiter pour son genre de bachelor party. Alice marie cet été avec sa fiancée. Puis, mais ça tombait que c'était une grosse semaine parce que le mardi, avant qu'on arrive, je jouais en Ligue des champions. Puis le dimanche, la finale de la Coupe de la Ligue. Donc, on l'a vu, mais pas beaucoup. Puis c'est ça, la finale dans le Stade National.
Ça s'est fini au tir au but?
Ça s'est fini au tir au but. Match complètement fou en temps régulier, 3-3. tiré de l'arrière, on prit les devants. Rangers ont annulé à la toute dernière seconde pour aller en overtime. Pas de but, penalty. Ils ont gagné en penalty. C'était vraiment... Puis tu sais, j'en parlais avec les gens qui étaient autour de nous, qui nous ont reconnus parce que la manière, ben, notre accent. Puis aussi, comment on appelait Ali quand il faisait un bon coup. On était comme « Ah, well done, Ali! Hein? » Tandis qu'eux l'appellent AJ.
Okay.
Puis ils nous ont dit, honnêtement, vous êtes tellement chanceux d'être tombé sur un match comme ça contre Rangers. Mais le contenu de ce match-là, puis bon, tous les trucs qui se sont passés, Finalement, je pense qu'on a été dans ce stade-là 5 heures de temps parce qu'on est arrivé un peu d'avance. Après, les célébrations.
La sécurité aussi.
La sécurité, oui.
Parce que là-bas, pour ceux qui ne savent pas, Celtic Rangers, tu vas pas dans la mauvaise section, non, tu ne vas pas par la mauvaise porte.
Ben, je te donne un exemple. On a marché de la maison d'Ali où on était tous pour aller au stade. C'est environ 15 minutes. Puis on marche dans une rue. Son frère avait un maillot de Ali blanc et vert. Puis on arrive dans un coin où c'est juste bleu. Il a dit à son autre frère, il dit, hey, donne-moi ton dé, je pense que je vais mettre ça par-dessus juste pour passer, tu sais, pour être sûr.
C'est ça ou en chest, mais c'est ça. Il garde pas le maillot.
Il faisait pas chaud.
Non, en Écosse, t'es rarement en chest.
Fait que, puis après ça, il l'a enlevé évidemment pendant le match. Mais non, c'est vraiment une question de vie ou de mort là-bas. Puis ouais, c'est ça, on a dû attendre parce que le stade était vraiment 50-50, étant donné que c'était pas chez Celtic Rangers, exactement. Puis, ouais, une ambiance comme ça, honnêtement, j'en ai vu des belles, des bonnes dans ma carrière en tant que joueur, mais en tant que partisan, c'est peut-être la plus extraordinaire que j'ai eu la chance de vivre. Là.
Marco Donadel, tu as joué avec lui pendant une demi-saison?
Oui, exact. Moi, je suis arrivé en 2017, il était là. Puis je pense qu'en 2018, je me rappelle bien, il était encore là un peu.
C'est possible.
Puis il a pris sa retraite pendant cette saison-là. Je suis plus sûr exactement, mais ouais, on a joué un peu ensemble. Ouais.
Son apport, moi, je trouve ça impressionnant de voir à quel point tu le regardes coacher puis tu as l'impression qu'il est dans le staff depuis 10 ans.
Oui.
As-tu le même constat? Puis qu'est-ce qu'il apporte de particulier?
J'ai le même constat. Je le trouve très, très confortable, très à sa place, honnêtement, dans le sens où, de ce que je vois jusqu'à présent, tout le staff travaille bien ensemble. Tout le monde apporte leur expertise. Puis Marco, c'est vraiment du côté défensif. Mm-hmm. Puis j'en parle avec Brezza, que lui a joué contre l'équipe à Marco quand il était en Italie. Puis il m'a dit, à chaque fois qu'on joue contre Marco, c'était une équipe ultra organisée, défensivement, spotless, très dur de jouer contre. Puis je pense, de la manière dont je le comprends, puis tu sais, Marco n'est pas juste défensif, puis quand c'est offensif, je me ferme les yeux, puis je mets mes écouteurs, puis j'écoute ma musique. J'écoute mon Andrea Bocelli. Mais il est évidemment très, très gros sur le défensif. Les nouveaux principes, les principes qu'on veut appliquer, je pense qu'ils vont nous faire du bien collectivement. Chose qu'on faisait moins bien l'an dernier, que ce soit presser haut, garder nos hommes, des courses pour rien. Donc, il est très, très gros sur ça. Puis amène de très, très bons points, honnêtement, je pense, qui vont grandement nous aider.
L'an dernier, ça a été difficile au milieu de la saison. On se demandait si c'était le dossier de Mathieu début mai, le départ d'Olivier Vassili par la suite. Dans le staff, il y a eu un gros changement de staff, un gros roulement dans l'entre-saison. Dans le staff, il y a eu des changements, des ajustements qui ont été faits en milieu de saison dernière. À quel point ça vous a affecté? Puis c'est ce qui a fait en sorte que c'est vraiment juste sur la fin de saison, après la Ligue Cup, que vous êtes remis en marche?
Oui, ça nous a affecté parce qu'au final, les changements qu'il y a eu dans le staff, je veux dire, quand le staff est un peu mêlé, un peu, pas désorganisé, mais que là...
Les rôles,
on ne sait plus qui fait quoi vraiment, ou comparément à cette année où c'est quand même noir sur blanc, c'est très, très clair. Mais quand tu sens qu'il y a une hésitation, quand tu sens que c'est un peu désorganisé, ben c'est dur de faire passer ton message en bas à nous les joueurs, mm-hmm. puis d'être clair, d'être concret sur ce qu'on veut faire exactement. Donc, nous, on l'a senti là. Ça peut expliquer un peu les déboires qu'on a eus, mais je pense aussi qu'il y en avait beaucoup de notre côté où on était très inconstants dans nos performances. Oui, on a eu des blessures, mais j'ai même pas envie d'aller là. Je pense que c'est vraiment... Tu sais, au final, on n'a pas juste 11 joueurs, là, puis c'est ce que le club, je pense, cette année, a vraiment mis l'effort là-dessus, de ne pas avoir juste 11, 12, 13 joueurs importants qui peuvent jouer match après match, mais d'avoir un effectif complet avec des doublures à chaque poste. Mais c'était la même chose pour l'an passé. On avait quand même la qualité. Mais au final, si ces joueurs-là ont plus ou moins envie de jouer parce qu'ils ont passé un match sur le banc ou dans les estrades, puis quand c'est le temps de performer, ben oui, ils n'ont pas de rythme, ce que je peux comprendre. Mais que tu ne donnes pas nécessairement raison à l'entraîneur de te remettre le match d'après sur le terrain, ça va un peu des deux côtés. Donc, tu as l'excuse de « j'ai pas de rythme », mais tu as l'excuse du coach, de son côté, lui qui dit « ben t'as pas performé non plus ». Donc, comment je suis censé te remettre quand lui que j'ai enlevé pour te mettre, ben il a fait aussi bien que toi, tu sais. Donc, il y a eu ça aussi qui était un peu le problème. Mais ouais, ce changement un peu dans le staff, ça nous a affecté. Puis le club est très conscient de ça. Là. Donc, je pense que c'est pour ça cette année que les rôles sont très, très clairs puis que cette situation ne va pas se reproduire. Là.
En terminant, je te parlais du maillot tout à l'heure. Mon hot take avec Frédéric Laure, c'est que c'est le premier ou le seul, peut-être, maillot dans lequel tu vas marquer 2 buts. Je ne sais pas combien d'années. Peut-être que vous allez le porter 3 ans de temps et ça te donne du lousse.
Ça m'aiderait.
Je le sais pas. Mais c'est-tu réaliste, ça? 1 par saison.
Oui, c'est très réaliste. Très réaliste, je pense.
Vous voulez vous améliorer sur les coups de pied arrêtés en plus. Ça donne une opportunité. Ça.
Sauf que moi, il m'aime bien quand même en transition défensive. Donc, ouais, plus.
Pour frapper de loin.
C'est vrai. Non, c'est vrai. J'en ai mis un en plus l'autre jour à l'entraînement. On les pratiquait. Frapper pied gauche sur un deuxième ballon. Donc, il y a cette possibilité-là. Ben oui, c'est sûr que moi, mon objectif, si je pourrais en mettre 5 par année, j'en mettrais 5. Je sais que c'est pas mon jeu. Sais que, tu sais, on me paye pas pour faire ça. Puis c'est du gravy. Puis ça fait du bien. Tu sais, c'est sûr que le sentiment, quand tu gagnes, puis quand tu marques, est meilleur que quand tu fais juste gagner. Tu sais, c'est personnel. Puis au final, on recherche ces émotions-là. J'ai pas eu une saison encore avec 2 buts. Donc, peut-être cette année.
Moi, ce maillot-là, ça peut être sur 2 ans. Là.
Ça peut être sur 2 ans. Il y a possibilité. Mais, ouais, j'aimerais ça, clore ça tout de suite. Cette année, 2 buts, merci, bonsoir, on n'en parle plus. On passe au prochain objectif.
La seule chose, là, j'espère que tu ne vas pas marquer dans ton maillot secondaire parce que ça, ce serait l'enfer. Ce serait vraiment pas cool. La seule chose que je te demande, quand tu vas marquer le deuxième, invente-moi une célébration. Puis,
OK, on s'en reparlera, tu m'en trouveras une, puis je vais faire ça avec grand plaisir.
Parfait, on fait ça.
Merveilleux.